Louis Albran a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral, nous avons le plaisir de retrouver Louis Albran. Bonjour Louis.
Bonjour Laura, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un des princes archevêques d'Embrun qui est très intéressant en raison de sa ascension sociale, car il est haut-alpin d'origine, et il voulait être pape, c'est un homme de grande culture, de certains niveaux, mais ça montre surtout qu'à son époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait déjà une mobilité sociale. Il est certainement le personnage le plus emblématique de la mobilité sociale de certains haut-alpins du XVIIe et XVIIIe siècle. La famille est originaire d'un petit village, Seillac. Seillac est un village proche de Guillestre, c'est une très ancienne lignée de paysans. Vers le milieu du XVIIe siècle, l'un d'entre eux, pour améliorer les revenus de cette famille d'éleveurs montagnards, qui vivaient en autarcie, assez simplement, devint colporteur. Chaque année, donc, entre la Toussaint et Pâques, il allait de village en village proposer la marchandise qu'il achetait à Grenoble. Il se spécialisa dans les onguents, les colifichets d'hiver, les lunettes, les dés à coudre, les petits bijoux, enfin le travail habituel d'un colporteur. Il dormait dans les granges ou sous les ponts avant de regagner Seillac pour la Semaine Sainte de préparer les terres du petit domaine sur les pentes du Cristillan vers la Clapière. Il était heureux de se retrouver au pied du Mélézé. La plupart des terres, depuis que les moines de l'abbaye de Saint-André de Villeneuve-d'Avignon étaient partis, appartenaient à l'archevêché d'Embrun. Ce jeune don Seillacain, robuste, déjà père de 5 enfants, aux muscles d'acier, aguerri par ses nombreuses traversées hivernales des cols du Lautaret et du Galibier, était loin de penser que l'un de ses enfants serait un jour prince-archevêque d'Embrun. Grâce à son activité incessante, ses qualités de marcheur infatigable, il constitua un petit magot qu'il arrondit en vendant ses terres du Villard et de la Tourbe. Il avait repéré dans son activité de colporteur un petit domaine près de Romans. Il acheta une petite boutique spécialisée en épicerie et joaillerie et s'installa à Romans. Devenu un petit bourgeois de la ville, il eut un rôle politique dans le combat contre les protestants en 1585. Cela lui valut d'être anobli par Henri III. Son fils, Henri, en 1597, sauva une fois de plus la ville des attaques du duc de Savoie. Il eut 7 enfants, parmi lesquels Pierre, qui se révéla très tôt surdoué, et une sœur dont nous parlerons plus loin, qui s'illustra dans la littérature après des années de couvent et devint la mère du grand d'Alembert, l'encyclopédiste. Donc la famille a acquis le nom de Tansin, on les appelle maintenant Pierre Guérin de Tansin. Pierre étudie à la Sorbonne, brillant latiniste et théologien, il travaille pour la diplomatie vaticane, et le nouveau pape Clément XI demande à Louis XIV le 15 avril 1702 de lui attribuer l'abbaye de Vézelay. Le voilà riche de 15 000 livres de revenus annuels et sur les chemins de la fortune. Vézelay étant près de Paris, il continua ses études et devint docteur en Sorbonne et se fit de nombreuses relations. Il a d'excellentes relations avec l'archevêque de Grenoble et devient chanoine prébendier de la Mure. Ceci arrondit encore son magot. Louis XIV a repéré ses qualités de gestionnaire et de diplomate. Il le promeut et se sert de lui pour emprunter de l'argent à l'église. En effet, ce roi, soleil, mégalomane, qui aime bien la guerre, a toujours besoin d'argent, notamment pour construire Versailles. Il n'écoute pas, hélas, Vauban, architecte de génie et économiste, et économe aussi, qui, lors de ses voyages à Mont-Dauphin, Briançon, constate et décrit la famine dans le Dauphiné. À ce moment de la vie du futur prince-archevêque d'Embrun, il nous faut parler de sa sœur, Alexandrine de Tansin, qui va jouer un rôle primordial dans sa carrière. En effet, en 1907, le duc de Castres, dans une biographie passionnante, La scandaleuse Madame de Tencin, raconte la vie de la sœur de l'archevêque. Elle vécut de 1682 à 1749. Depuis son jeune âge, elle est indépendante. Elle est placée à l'âge de 8 ans dans un monastère sous la règle de Saint-Dominique et prononce ses vœux en 1698, contrainte et forcée. Peu après, cette femme de caractère conteste en justice la validité de son engagement religieux, mais à la mort de son père, elle peut enfin quitter en 1705 le couvent et écrit « On voit bien la façon dont il nous a traités que Dieu est un homme. » Première des féministes. Épuisée par les années de clôture, elle fait une cure à Aix-les-Bains et se retrouve enceinte de jumeaux, dont un sera le grand encyclopédiste de Lambert. Elle s'installe à Paris, ouvre un salon littéraire très fréquenté, écrit dans son appartement de la rue Saint-Honoré. Après avoir passé 22 ans forcée au couvent par un père tyrannique, son intelligence et son charme lui permettent d'accéder aux plus hautes sphères du pouvoir. Son salon littéraire est très couru. Elle ouvre un bureau à la rue Quincampoix, devint l'amie du financier anglais Lowe et la maîtresse du cardinal Dubois, qui lui va devenir premier ministre. Ces deux influents personnages, Lowe et Dubois, vont largement contribuer à accélérer la carrière de son frère Pierre, qui est nommé archevêque de Lyon puis d'Embrun, après avoir travaillé quelque temps aux côtés du financier Lowe. Donc on voit bien ici que Guérin de Tencin, l'archevêque, a une bonne connaissance de la finance, ce qui lui servira pour rétablir les finances de l'archevêché d'Embrun. Dubois, devenu premier ministre, demande à Pierre, en 1727, d'organiser le fameux concile d'Embrun, où fut défait Jean Soanen, évêque janséniste de Sénèze. Après le départ de Dubois et l'intrigue à Rome et à Versailles, elle intrigue donc à Versailles et à Rome pour faire nommer son frère. Premier ministre, c'est le cardinal de Fleury qui l'emporte. Donc elle voulait que son frère soit premier ministre, mais le roi a préféré le cardinal de Fleury. Enfin, fatigué par les intrigues, il s'exile de Paris pour plusieurs mois. Quand elle revient à Paris, elle se consacre à son salon littéraire, où se pressent Fontanelle, Marivaux, Marmontel, Helvétius, Montesquieu, tous les grands de l'époque, qu'elle aide dans sa composition de l'esprit des lois. Montesquieu est le grand théorie de la séparation des pouvoirs. Son salon est aussi couru par les diplomates et les financiers. Elle ne trouve pas moins le temps de publier deux romans à succès, dont Les malheurs des amours et L'histoire d'une religieuse. Sa vie ressemble à celle de ses héroïnes de romans. N'a-t-elle pas écrit Une femme adroite? Elle sait mêler les intérêts généraux et parvint, sans ennuyer son amant, à lui faire faire ce qu'elle veut. Alexandrine était totalement indifférente à la rumeur publique, ainsi qu'au candidat-on. Sa réussite et celle de son frère firent de nombreux jaloux. En témoignage, ce libelle, après la mort, le jeudi 4 décembre 1749, à la rue Vivienne à Paris, crime et ville ont pris fin avec la mort de la Tencin. Hélas, me dis-je, pauvre R, on ne reste-t-il pas son frère? Voilà, la méchanceté n'est donc pas d'aujourd'hui. La brillante Alexandrine est maintenant enterrée à l'église de Saint-Eustache à Paris. Son frère a encore 10 ans à vivre. Il est bien vu à la cour, grâce à ses positions anti-jansénistes, car on sait que Louis XIV se battait contre ce courant janséniste auquel participait Pascal. Il est nommé cardinal, puis ministre d'État, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, sans portefeuille. Il participe au Conseil d'État. Le voilà récompensé par Louis XV, roi depuis 1715. En effet, les jansénistes sont exilés, déchus de leurs fonctions. Blaise de Pascal se sauvera grâce à sa grande intelligence. Louis XIV en voulait surtout aux jansénistes de Port-Royal, parce qu'il critiquait sa vie sentimentale et ses nombreuses maîtresses. Avec l'arrivée de Louis XV, les jésuites augmentent leur emprise. L'archevêque d'Embrun les soutiendra. Jean Bayle disparaît. En 1484, on sait que c'est lui qui a conduit la terrible répression contre les Vaudois de la Fraissinière et de la Valouise en 1488. Il laissera le souvenir d'un archevêque qui fut intraitable et conduit beaucoup de Vaudois au bûcher, donc 5 de mes ancêtres. Il en fit beaucoup périr par le feu sur le parvis de la cathédrale d'Embrun et de Saint-Grépin. Sur le plan politique, il a laissé le dauphin prendre de l'importance, par exemple soutenu par le Raymond Hénard, le seigneur de l'Argentière. S'approprier les terres de Saint-Grépin, Saint-Clément, Guillestre et Châteauroux. En 1494, le nouvel archevêque Rostin d'Ancezune trouve donc une situation délicate. Il fut ambassadeur de Charles VIII à Rome. Rostin est un intellectuel, il écrira une histoire des Vaudois du Dauphiné, hélas demeurée manuscrite, mais que j'ai pu consulter aux archives du Vatican. En 1502, il reçoit Louis XII à Embrun. Il est moins virulent que son prédécesseur dans la persécution des Vaudois. Le pape Jules II en fera en 1507 son majordome. Pendant les trois dernières années de sa vie, il vit au Vatican tout en conservant ses titres à Embrun. Il meurt à Rome en 1510, mais souhaite être enterré dans l'église des Cordeliers d'Embrun, aujourd'hui office du tourisme. C'est un futur pape qui lui succède. Rien de moins que le petit-fils de Laurent le Magnifique, c'est Jules II de Médicis, qui reste à Embrun de 1510 à 1511. Puis il retourne à Rome et est nommé pape sous le nom de Clément VII. On voit donc que les princes archevêques d'Embrun ont très souvent dans la diplomatie ou à la papauté un destin prestigieux. Il eut un pontificat difficile à Rome, car Saint-Ange fut pillé par les Allemands, assiégé et connu la fin avant de pouvoir s'évader, se réfugier à Orvieto. Il meurt épuisé par ses luttes, et notamment celles contre la terrible famille Colonna, en 1534. Il laisse le souvenir d'un grand protecteur des sciences et des arts. Il aida et protégea Copernic, Michel-Ange, à qui il commanda de nombreuses sculptures, Caravaggio, le grand peintre, ainsi que Parmigiano, Rosso Florentino. Un autre Italien d'illustre lignée génoise, Nicolas de Fiesque, le remplace en 1516. Les chanoines d'Embrun sont excédés par la nomination à répétition. Le fils d'Alexandrine, Jean Leron d'Alembert, dont elle accoucha peu après son séjour de 22 ans au couvent, est devenu philosophe. Il dirigea l'encyclopédie avec Diderot. Il mourut jeune à 65 ans. Ceux qui connaissaient les mathématiques se souviennent de l'équation et du théorème de d'Alembert. Sa mère l'a abandonné le lendemain de sa naissance à Paris. Le chevalier Destouches le récupère à l'hospice des enfants trouvés et l'éduque au collège des Quatre Nations qui abrite aujourd'hui l'Institut de France. Ce collège a été fondé par Mazarin où il fut enterré. C'est un ami de Voltaire, de Diderot, avant de se fâcher avec ce dernier. Donc on voit bien que les temps saints étaient des gens de haut vol intellectuel. On retient sa formule célèbre, il faut penser d'après soi et penser par soi-même. On lui doit aussi, trop de lecture peut étouffer le génie, où le vrai bonheur est dans le calme de l'esprit et du cœur. Il eut peu de contact avec sa mère qu'il ignora. On peut penser que sans les relations et les intrigues de sa sœur Alexandrine, le descendant de Seillac n'aurait pas atteint les sommets du pouvoir. Il se faillit de peu qu'il remplace Dubois comme premier ministre, mais le cardinal de Fleury, né à Lodève en 1653, avait été nommé précepteur du jeune Louis XV, âgé alors de 6 ans, par le duc d'Orléans. Des liens solides et affectueux vont se créer entre le futur roi et son précepteur. C'est pourquoi, le 16 juillet 1723, quand Louis XV est sacré à Reims à 14 ans, il pense à son ancien précepteur comme premier ministre. Mais le régent lui impose Dubois, celui-ci décède quelques mois plus tard et laisse sa place à Fleury. Malgré l'influence de sa sœur, l'archevêque d'Embrun n'avait pas sa chance. On peut observer, en suivant la vie du frère et de la sœur, d'une certaine mobilité sociale existait pour des êtres d'exception, au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais les choses sont-elles vraiment changées de nos jours, quand nos grandes écoles et lycées d'excellence sont réservés pour une grande part à une nomenclature parisienne?
Merci beaucoup.